appliquer la fin de vie. Alors j'ai commencé déjà à dire des choses. Est-ce qu'on peut dire que la dignité, c'est l'idée que je me fais de ma dignité? On peut le dire au sens numéro 2 peut-être, mais on ne peut sûrement pas le dire au sens numéro 1. Est-ce qu'on peut dire que la dignité, c'est l'idée que autrui se fait de moi? De la même façon, je peux le dire peut-être au sens numéro 2, mais certainement pas au sens numéro 1. C'est-à-dire que ici, le regard qu'autrui porte sur quelqu'un ne peut pas déterminer sa dignité. Si, et on trouve parfois cette définition pourtant, si la dignité dépend du regard d'autrui, alors nous ne pouvons que trembler sur les bases de notre simple civilisation. Parce que ça voudrait dire que chaque être humain aurait le pouvoir de définir, de dire qui est digne et qui ne l'est pas. Et il y aurait évidemment une grave atteinte ici à l'humanité de l'humain. Je dis cela parce qu'on l'a parfois entendu, je l'ai parfois lu, concernant la fin de vie. Ben, sa vie n'est pas digne. Ce qu'on veut dire, alors c'est une confusion de langage. Ce qu'on veut dire, c'est sa vie est difficile, sa vie est épouvantable, sa vie est insupportable. Ça, on peut le dire, bien entendu. Mais attention, si on dit ça n'est pas digne, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de dire que son humanité est invisible, qu'elle n'apparaît plus et que donc il n'a plus le droit à notre compassion, à notre accompagnement, à notre soulagement et que donc il doit disparaître? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ben, si c'est ça que ça veut dire, évidemment, c'est assez inquiétant en termes simplement de civilisation. Si maintenant c'est la personne elle-même qui dit « ma vie vaut plus rien », je suis pas digne de, enfin ma vie ne vaut plus d'être vécue, elle n'est pas digne d'être vécue. Bien entendu, cette personne a le droit de le dire, de crier sa douleur et sa souffrance, et on comprend ce que ça veut dire. On comprend que ce que ça veut dire, c'est je n'en peux plus, il faudrait que ça finisse, mais ça ne veut pas dire je ne suis plus un être humain. Ça veut dire, même quand je dis je voudrais que ça finisse, ça veut dire je suis encore là et je dis je voudrais que ça finisse, mais je suis encore un être humain et je ne dois pas ici être considéré comme exclu par avance de l'humanité à laquelle j'appartiens. Et ma dignité, cette dignité-là, personne ne peut me la contester. Alors j'insiste beaucoup sur ce point parce que le débat sur la fin de vie, sur la dignité et la fin de vie, a été terriblement malmené, tout simplement dans la clarification sémantique exigée ces dernières décennies. Et je le dis maintenant dans mes conférences, je salue le courage du vice-président de l'association du droit de mourir dans la dignité, qui enfin a reconnu que c'était un très mauvais mot qui avait été utilisé par cette association à sa fondation. Il le dit dans son livre « Fin de vie » à la page 160 très exactement, il dit que c'était une très mauvaise idée. Alors il faudrait en effet qu'on arrête de dire qu'il y a des gens qui meurent dans la dignité et d'autres qui ne meurent pas dans la dignité. Nous, tout le monde veut mourir bien sûr dans la dignité et j'attends maintenant évidemment que la conséquence de cet aveu public et courageux fasse que cette association dise que son objectif n'est pas de critiquer la dignité. Je crois que sur la dignité ontologique, nous serions tous d'accord, mais de dire que ce qu'elle défend, c'est autre chose. C'est le droit de mourir dans la liberté, dans une certaine liberté dont nous pouvons reparler tout à l'heure. Mais ce n'est plus la question de mourir dans la dignité. Tout le monde veut mourir dans la dignité, bien sûr, au sens où tout le monde veut une mort qui soit le plus conforme possible à l'idée que nous nous faisons de l'être humain. Alors, cette remarque m'amène maintenant, si vous voulez, à rentrer un peu plus dans le détail, justement, de ce que c'est qu'à mes yeux le respect de la dignité de l'homme en fin de vie. Je disais tout à l'heure en commençant que, précisément, finir sa vie, c'était la continuer. Et que il y a ici à prendre en considération plusieurs aspects, plusieurs dimensions. La première, c'est que je crois que nos médecins, nos soignants, se sont trompés dans les années d'après-guerre, dans leur déontologie. Je le dis très respectueusement, je suis très admiratif de ce que font les soignants, de ce que font les médecins, mais je crois que leurs prédécesseurs se sont franchement trompés. quand ils ont considéré que leur premier devoir était de prolonger la vie à tout prix. Si vous lisez le code de déontologie de 1947, sa première mouture, vous avez des affirmations de ce genre et qui ne sont pas acceptables. Parce qu'elles considèrent ces affirmations que, puisque la vie est le bien en effet le plus précieux de l'homme, la prémisse est tout à fait exacte, eh bien tous les moyens doivent être employés pour prolonger la vie. Et là, la conséquence n'est pas tout à fait exacte. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le respect de la vie organique humaine, la vie, je veux dire, réduite à ses organes les uns à côté des autres. Ce qui compte, c'est le respect de la personne humaine. Et alors, comme par hasard, dans les années 70, a surgi dans le grand public une expression, aujourd'hui communément répandue, mais elle est récente, cette expression. Elle n'existait pas avant les années 70. C'est l'expression d'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire le fait que, tout d'un coup, les soignés, les patients se sont dit « Mais est-ce que les médecins ne sont pas en train d'en faire trop ? Est-ce que, en effet, depuis qu'ils ont des moyens de nous guérir, et ils n'en avaient guère, il faut bien le reconnaître, avant la moitié du XXe siècle, avant les années 40-50, eh bien, est-ce que la médecine grisée, emportée dans son élan par ses grandes conquêtes, n'est pas en train de croire qu'elle peut finalement tout essayer et tout faire ? Et que vient un moment où il faudrait pourtant consentir à notre finitude humaine, c'est-à-dire à consentir à la mort qui vient. Vous savez, les années 70, je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous qui, évidemment, n'avaient pas présent à l'esprit cette histoire, ce sont les années du premier divorce entre les médecins et les patients. C'est la montée en puissance des droits des patients. Et cela tient en partie, paradoxalement, aux capacités que la médecine avait entre ses mains, et en même temps à cette illimitation du pouvoir que les médecins se sont quelquefois appropriés. Et par exemple, le fait de réanimer, évidemment c'est une grande victoire, c'est une grande conquête. Combien de vies sont sauvées aujourd'hui grâce à la réanimation ? Oui, mais est-ce que c'est toujours décent, c'est le cas de le dire, de réanimer ? Est-ce qu'il ne faut pas consentir aussi à la mort qui vient ? On peut pratiquement toujours réanimer, sauf quand vous arrivez vraiment écrabouillé complètement. Mais aux urgences, on peut toujours réanimer. Est-ce qu'il faut toujours réanimer ? Voilà des questions que nous sommes en droit de nous poser. Et voilà comment l'expression d'acharnement thérapeutique a surgi dans le grand public pour désigner cette manière qui n'avait rien de thérapeutique au demeurant, de prolonger les existences dans n'importe quelle circonstance. Alors depuis, amende honorable a été faite, bien entendu. L'expression de refus d'obstination déraisonnable, qui est une expression sans doute préférable à acharnement thérapeutique, mais ça désigne la même chose, est rentrée désormais non seulement dans le code de déontologie, mais est rentrée dans la récente loi Leonetti, celle du 22 avril 2005, qui stipule dès son premier article que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. C'est très important de dire ça. La fin de vie, il faut la respecter dans son cours, dans son processus. Et c'est d'ailleurs à partir de ces excès thérapeutique, dont je souligne qu'il n'avait rien de thérapeutique, encore une fois, c'est à partir de ces excès que la société s'est mise à se poser d'autres questions qui sont d'ailleurs un petit peu celles d'aujourd'hui, en particulier celles de l'euthanasie. Mais c'est d'abord parce qu'il y a eu acharnement thérapeutique qu'il y a eu constitution de différents mouvements, et en particulier le mouvement Jalmalve qui s'est constitué aussi à la fin de cette période pour dire qu'autre chose était à faire et qu'il ne fallait pas d'obstination déraisonnable. L'ADMD a dit la même chose aussi à la même époque. Deuxième élément de réflexion sur le respect de la dignité en fin de vie, soulager la douleur. Soulager la douleur. Là encore, les médecins portent une certaine responsabilité. Si vous lisez l'article 23 de la linéa A du Code de déontologie de 1947, vous trouverez une formule qui fait frissonner aujourd'hui. Le médecin, même lorsqu'il soulage la souffrance, doit garder en vue que c'est la vie qu'il doit sauvegarder. Et si vous êtes attentif au sens des phrases, cela veut dire très exactement que soulager la souffrance n'est pas l'objectif prioritaire, c'est toujours la vie qui est l'objectif, le maintien de la vie prioritaire. Et ça, c'était éthiquement tout à fait discutable. Et en plus, ça n'était même pas conforme à une longue tradition philosophique et même théologique qui n'avait jamais soutenu une chose pareille, qui disait depuis très longtemps qu'il ne fallait pas utiliser de moyens, alors dans le langage de l'époque, c'était des moyens extraordinaires. En termes contemporains, ça voudrait dire des moyens disproportionnés, des moyens inutiles. Quand l'heure est venue, il faut savoir consentir à la mort qui vient et surtout soulager la douleur. Et cela, le législateur désormais l'a dit de la façon la plus claire. Lorsque une maladie incurable en phase terminale, il faut quand même que ces deux conditions soient réunies, lorsqu'une maladie donc en phase terminale et incurable donc intervient, le devoir prioritaire, avec évidemment l'acquiescement du patient qui doit être éclairé sur ce que l'on fait dans la mesure du possible, dans la mesure où sa lucidité le permet évidemment, eh bien le devoir prioritaire est de soulager la douleur. Soulager la douleur, oui, quel qu'en soit le prix, c'est-à-dire quelles qu'en soient les conséquences, y compris, même si ce cas est finalement très rare, y compris si ces conséquences de l'administration d'antalgiques de plus en plus puissants, voire d'anesthésiants, devaient conduire à l'abrégement des jours. Autrement dit, il est très clair que sur le plan éthique et désormais sur le plan juridique, le devoir prioritaire du soignant vis-à-vis d'une personne qui termine sa vie, et pour terminer sa vie, il faut être atteint d'une maladie incurable, être en phase terminale, j'insiste sur ces deux conditions, eh bien, le soulagement de la douleur est la priorité. Parce qu'il se peut que des douleurs transitoires doivent être supportées, et on est d'ailleurs surpris de voir comment nous autres, les bien portants, nous avons une perception complètement différente de ceux qui sont sur leur lit de douleur, de la douleur. Des douleurs que l'on ne croyait pas, qu'on ne se croyait pas capable de supporter. Voilà que l'expérience m'en est donnée régulièrement. Voilà que des grands malades sont capables de les supporter. Il y a des enquêtes tout à fait sidérantes d'ailleurs là-dessus. Hein. Par exemple, j'ai une enquête très récente qui montre que pour des médecins, tel type de douleur, à 90% des cas, est insupportable. Eh bien, les mêmes malades interrogés dans les mêmes circonstances répondent exactement l'inverse. À 90%, ils la trouvent supportable. Donc, il y a concernant l'échelle d'évaluation de la douleur, évidemment, tout un labeur à effectuer pour ne pas être dans l'erreur. Mais en tout cas, le principe ici est clair, me semble-t-il. Le respect de la dignité humaine, c'est que la souffrance est inutile en fin de vie, sauf si le patient préfère, par exemple, avoir un peu moins de somnifères et avoir plus de lucidité. J'ai eu à travailler il y a très peu de temps un cas d'éthique clinique extraordinairement perturbant pour l'équipe soignante et qui avait besoin d'en reparler avec un profil de mon style, parce qu'un malade avait décidé, avec la plus grande énergie, la plus grande lucidité, qu'en aucune façon il ne voulait être soulagé de sa douleur. Et la dernière heure a été vraiment pénible pour tout le monde. Mais c'est lui qui ne voulait pas. Il a eu une hémorragie interne. Enfin, c'était bon. Ça veut dire que, en règle générale, c'est pas ce cas-là qui doit être retenu, en règle générale, la douleur doit être combattue. Et alors, j'ajoute ici quelque chose que le grand public ne sait pas. Je parle sous le contrôle de médecins qui sont dans la salle et qui peuvent être plus spécialisés que moi. Nous savons aujourd'hui soulager toutes les douleurs. Et lorsque nous avons des douleurs que l'on appelle rebelles, nous avons toujours la possibilité de procéder à des sédations, c'est-à-dire à des endormissements dont on peut espérer qu'ils soient réversibles, c'est-à-dire que l'on peut peut-être donner à ce moment-là une certaine qualité de vie, pas douloureuse, pas trop douloureuse, à certaines personnes. Je ne suis pas évidemment compétent, mais je participe assez régulièrement à des travaux de recherche. Je participe aussi aux congrès nationaux des sociétés de traitement contre la douleur. Et je parle sous le contrôle donc de meilleurs experts que moi pour tenir cette affirmation. Je dis cela parce qu'on entend dire, on dit, il y a des souffrances absolument intolérables, insupportables. Il y a des souffrances intolérables, insupportables, mais c'est davantage des souffrances psychiques, morales, mais les souffrances physiques, désormais, les douleurs physiques, elles sont toutes, je dis bien toutes, traitables. Alors évidemment, il y a des patients qui refusent que l'on traite leur souffrance physique. Et là, nous nous trouvons dans des situations où le soin est évidemment rendu extrêmement difficile. Que faire face à un patient qui dit, c'est rarissime, mais qui dit, je ne veux pas que l'on soulage ma douleur. Là, il y a des cas qui sont évidemment exceptionnels, il faut le reconnaître. Et c'est important de le dire. Donc voilà le deuxième principe qui me paraît respecter la dignité de l'être humain, c'est de ne pas accepter que la douleur insupportable accompagne une fin de vie. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Troisièmement, accompagner quelqu'un jusqu'à son terme, ce n'est pas confondre sa souffrance et le souffrant. Je m'explique. Je suis tombé sur un très beau texte de Georges Bernanos de 1938 qui disait « Je crains que les esprits délicats, il disait ça en 1938, considèrent qu'il faut supprimer le souffrant pour supprimer la souffrance. » C'est-à-dire que l'ambiguïté dans laquelle nous pouvons nous trouver était pointée déjà. Et il ajoutait, ce qui m'a vraiment étonné, parce que je savais que cet écrivain avait des dons prophétiques, il a ajouté « Notre époque est une époque qui a le cœur dur et la tripe sensible. » Notre époque a le cœur dur et la tripe sensible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous nous laissons submerger par l'émotion. Et vous me voyez reprendre en conclusion maintenant, puisque je m'achemine vers ma conclusion, mon propos de départ. Nous sommes une société submergée par l'émotion, ce dont les artistes, les écrivains avaient vu l'aurore poindre. Mais nous y sommes maintenant, et nous y sommes même englués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe par ce que nous croyons être la compassion et l'émotion, et nullement par ce que j'appelle l'authentique compassion, qui toujours consiste à soulager, à accompagner, c'est-à-dire à faire en sorte que le devoir de fraternité jamais ne s'arrête. Donc ne confondons pas, par exemple, l'élimination de la souffrance avec l'élimination du souffrant. Ne confondons pas la continuation d'une relation de soins, de sollicitude, et ici les médecins ne sont pas seuls concernés, la sollicitude et le soin concernent l'ensemble d'une société. Que dit une société vis-à-vis des plus vulnérables ? Que dit une société vis-à-vis de ceux qui ont la fin de vie ? Vous avez raison de vouloir déguerpir ? Ou leur dit-elle, nous sommes là et nous vous accompagnons et nous soulageons votre douleur. Et même si vous vous doutez de vous, eh bien nous vous disons que vous comptez pour nous. Est-ce que ce devoir de fraternité, qui est finalement lui aussi à la fin de notre belle triade républicaine, n'est pas la valeur qui est en train en ce moment, peut-être à notre insu, de diminuer d'intensité. C'est-à-dire que lorsque nous considérons, par exemple, que la liberté doit l'emporter sur la fraternité, c'est-à-dire la liberté d'un sujet qui dit « je fais ce que je veux » et vous devez vous aligner sur ce que je demande, je le dis pas seulement pour la question de la fin de vie et de l'euthanasie, mais je le dis aussi pour beaucoup d'autres situations où on a l'impression que l'individualisme contemporain voudrait nous enfermer, eh bien, est-ce que ce développement exponentiel des droits tous azimuts d'une liberté des sujets n'est pas en train de nous faire perdre de vue les valeurs du vivre ensemble et qui sont celles précisément de cette petite valeur de elle est petite cette valeur parce qu'elle ne se voit pas beaucoup de la fraternité. Et je voyage beaucoup, en particulier dans les pays du Nord, Belgique, Luxembourg, Hollande. Et je suis frappé de voir que se reproduit en ce moment quelque chose qui avait intrigué ce grand penseur qui était Morvan Lébesque. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas Morvan Lébesque. Morvan Lébesque était une très grande plume du canard enchaîné. Alors s'il y avait un moraliste qui n'était pas sirupeux, c'était bien lui. Eh bien, je me souviens très très bien, je l'ai cité d'ailleurs dans un de mes livres, qu'en 1962 en Belgique, une mère avait mis fin au jour de sa fille handicapée et les juges avaient été assez cléments pour ne pas la condamner. Mais Morvan Lébesque, dans Le Canard enchaîné, avait fait un article au Vitriol et s'était insurgé, et c'est très exactement ce que je suis en train d'essayer de vous dire, contre cette dévaluation de la vertu de fraternité. Il avait dit, mais enfin, bien sûr qu'il ne fallait pas avoir un geste de condamnation morale, voire juridique vis-à-vis de cette mère qui avait vécu un drame épouvantable. Mais enfin, ajoutait-il, pourquoi l'applaudir ? Pourquoi bruyamment manifester sa joie et exiger de changer la loi qui interdit de tuer ? Mais bien sûr qu'il y aura toujours des transgressions. Bien sûr que la justice, comme la conscience morale, doit se montrer indulgente et clémente dans beaucoup de situations qui sont difficiles, qui sont épouvantables. Mais est-ce que l'on a pour autant à légaliser l'exception, à légaliser la transgression ? Et il s'était indigné, il s'était offusqué. Pourquoi ? Eh bien parce que, bien évidemment, ce genre d'applaudissements bruyants provoquait des dommages collatéraux. Et vous voyez, j'ai réussi à faire cette conférence sans vous parler de l'actualité chaude, bruyante. Je suis prêt, bien sûr, dans le débat, à en dire beaucoup plus. Mais lorsque toutes ces affaires arrivent, l'affaire Imbert, l'affaire Sébir, etc., qui sont d'ailleurs racontées d'une manière généralement falsifiée. Nous savons, depuis le début de l'affaire Imbert, que les choses ne sont pas passées comme le livre de Vincent Imbert le raconte. Nous le savons depuis le début. Il suffisait de lire le courrier de Berck dès octobre 2003 pour voir que l'avis de l'équipe médicale unanime, celle qui avait accompagné Vincent Imbert, n'avait pas du tout le même regard sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, que ce que les médias nous ont dit à longueur de temps. Le kinésithérapeute a ressorti son témoignage il y a seulement 2-3 mois, mais nous le connaissions dès octobre 2003, ce témoignage. Il existait, il était publié dans le quotidien du médecin, que évidemment personne ne lit, et il était publié dans le courrier de Berck. Alors là, évidemment, il fallait le chercher, mais les médias ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Les médias s'intéressent à la mort annoncée, à la fascination d'une mort que l'on annonce à l'avance. Même chose pour l'affaire Sébir. De plus, au fur et à mesure que les informations nous parviennent, nous savons que les choses ne sont pas passées comme on nous l'a dit. Nous savons qu'elle a refusé des traitements qui auraient peut-être pu la guérir. Nous savons qu'elle a refusé les soulagements de la douleur qui lui étaient proposés. Donc elle s'est trouvée dans une situation vraiment inextricable, tragique, et je ne jette absolument pas la pierre à qui que ce soit dans cette affaire qui a dû être très, très douloureuse pour tous ceux qui l'ont accompagnée comme ils ont pu. Mais enfin, il faut faire attention que lorsque nous applaudissons le geste de Vincent Imbert ou lorsque nous regrettons que Chantal Sébir n'ait pas eu une euthanasie en bonne et due forme à la hollandaise, il faut faire très attention aux dégâts collatéraux. Moi, puisque je me suis impliqué dans ces questions, que j'y ai réfléchi, il se trouve que je reçois de la part de personnes qui sont soit en fin de vie, soit lourdement handicapées, des témoignages. Et j'ai été très, très ému, très bouleversé ces derniers temps. Je ne le dirai pas trop publiquement parce que je deviendrai sans doute impudique, mais par ces personnes qui m'ont dit « Monsieur Rico, vous qui avez la chance de bénéficier quelquefois de micro à la radio ou d'être sur une estrade, dites bien que nous n'en pouvons plus d'entendre cette société qui indirectement nous dit que nous devrions ne plus être là parce que, en effet, notre situation est difficile, elle est douloureuse. Ce sont des voix silencieuses que l'on n'entend pas. Elles sont difficiles à exprimer et elles n'intéressent pas les médias au demeurant. Et pourtant, eh bien, c'est là-dessus que je terminerai. Finir sa vie, c'est toujours être un vivant. Tandis que l'interrompre, évidemment, c'est cesser d'être un vivant. Je vous remercie.